Alors que des entreprises doivent verdir leur image tant bien que mal, malgré des activités polluantes bien visibles, le secteur du numérique profite de son aspect principalement immatériel, en surface, pour passer à travers les critiques. Sauf que voilà, depuis quelques temps, on montre du doigt l'aspect énergivore de ces plateformes. Pour mieux comprendre le rôle que peuvent jouer les acteurs du numérique dans l'avenir de notre planète et de ses ressources bel et bien limitées, j'accueille à écran interposé Daniel Tanuro, agronome et environnementaliste. Il vient de sortir un nouvel essai sur l'effondrement et l'éco-socialisme, trop tard pour être pessimiste, aux éditions textuelles. Vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de Siècle Digital, et on est parti!
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Bonjour Daniel.
Bonjour.
Le néologisme éco-socialiste n'est jamais très loin de votre nom lorsqu'on vous cite. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste justement ce terme d'éco-socialisme ?
Ben oui, volontiers. C'est très simple et tout est dans le terme en quelque sorte. C'est un projet politique et social civilisationnel qui se réclame de la tradition du socialisme, c'est-à-dire qui vise à la destruction du système capitaliste basé sur la course au profit et à son remplacement par un système basé sur la satisfaction des besoins démocratiquement déterminés par les gens eux-mêmes. En même temps, c'est un courant qui fait une critique radicale de la manière dont tous ceux qui se sont, ou presque tous ceux qui se sont réclamés de ce projet anticapitaliste jusqu'à présent, ont péché par compromis avec le productivisme, avec le produire toujours plus. Et donc ont quelque part escamoté les contraintes que posent les limites de l'écosystème terrestre sur le projet d'émancipation. Et ces contraintes, nous voulons les réintroduire dans ce projet de façon déterminée.
Alors, si vous menez un combat, comme je l'ai compris et qu'on comprend rapidement en lisant votre ouvrage contre le fonctionnement du capitalisme, je suppose que le numérique et ses acteurs font partie du lot parce qu'on les décrit souvent comme des acteurs qui relèvent même de l'hypercapitalisme.
Oui, certes, ce sont des géants. Les GAFA aujourd'hui ont un pouvoir économique et un pouvoir d'influence sociale et politique qui est gigantesque. Et en plus, pour l'objet qui me préoccupe en particulier, qui est la destruction de l'environnement et en particulier la déstabilisation du climat, qui constitue une menace majeure pour l'avenir de l'humanité et l'avenir de la biodiversité sur cette planète, ben, par rapport à cet enjeu-là, ces groupes ont un impact non négligeable. On dit, bon, c'est du virtuel, comme si il n'y avait pas de consommation de matière derrière. C'est évidemment un leurre. Les émissions de gaz à effet de serre qui sont attribuables aux géants du numérique sont supérieures aujourd'hui à celles du secteur du transport maritime. Elles tournent autour de 3% des émissions mondiales de CO2. C'est évidemment le résultat d'une consommation d'énergie qui est considérable. Et c'est le secteur responsable d'émissions qui est au niveau mondial celui dont la croissance est la plus rapide. Donc l'enjeu est véritablement très important.
Ouais, il faut agir maintenant, mais justement, certains acteurs du web disent, quant à eux, qu'ils font le taf, ils sont conscients de ces enjeux. Et par exemple, Google dit, nous sommes une entreprise qui n'émet pas de CO2, car tout notre fonctionnement se base sur une énergie renouvelable, avec des fermes gigantesques de panneaux solaires. Devons-nous saluer ce genre d'initiative ?
Mais, c'est-à-dire que ça vaut évidemment mieux que s'ils employaient du charbon. Ça, c'est évident, mais le raisonnement qui est derrière est néanmoins complètement biaisé parce que la situation actuelle est à ce point grave et gravissime même du point de vue de la déstabilisation du climat, que le problème ne peut pas être résolu simplement en prétendant remplacer des renouvelables, les fossiles, les énergies fossiles par les énergies renouvelables. Cette idée du remplacement est en fait un leurre. Ce qui se passe véritablement, c'est que les sources d'énergie renouvelable s'ajoutent aux sources fossiles. Alors c'est vrai, leur part dans la production énergétique augmente très rapidement, mais ça ne change rien au fait que les émissions de CO2 dues à la combustion des combustibles fossiles continuent d'augmenter. Elles augmentent même plus rapidement qu'au siècle dernier. Et derrière tout ça, il y a encore une fois un problème matériel extrêmement simple que je vais essayer d'expliquer en 2-3 minutes, si vous me le permettez.
Bien sûr.
Le système énergétique basé sur les fossiles doit être remplacé par un système basé à 100% sur des renouvelables. Alors, les renouvelables ont un potentiel technique qui permet amplement de satisfaire les besoins énergétiques de l'humanité. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Le problème est à deux niveaux. D'abord, au niveau économique, il commence à être aussi rentable que les fossiles, mais jusqu'à présent, c'était pas le cas. Mais il y a aussi un autre problème qui est un problème technique, matériel, si vous voulez. C'est que les équipements nécessaires, les convertisseurs d'énergie renouvelable qui sont nécessaires, doivent être construits, doivent être fabriqués. C'est matériel, c'est pas virtuel, ça. Et leur fabrication requiert de l'énergie. Et cette énergie au temps zéro de la transition, pour parler dans ces termes-là, elle est à plus de 80% d'origine fossile. Et cette proportion n'a d'ailleurs quasiment pas varié au cours des 40 dernières années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute chose restant égale, la transition énergétique elle-même nécessiterait un surcroît d'énergie, donc un surcroît d'émissions qui doit être compensé quelque part. Conclusion du raisonnement, on ne peut pas respecter les contraintes climatiques de la stabilisation du système Terre si on ne produit pas radicalement moins et si on ne transporte pas radicalement moins de matière et de personnes.
Alors, face à cette démonstration que vous venez de faire, les géants du web, justement, proposent une sorte d'idéologie qui serait un solutionnisme technologique. En gros, le problème du réchauffement climatique pourrait être résolu avec des machines, avec des algorithmes. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ne sont pas assez performants, mais ce qu'ils nous disent, ces géants du web, c'est « laissez-nous travailler, on va réussir à trouver à la fin ». Qu'en pensez-vous ?
Je pense qu'ils n'ont, je dirais, ils n'ont pas totalement tort, en ce sens que je crois que les technologies du numérique devraient pouvoir jouer un rôle absolument décisif pour permettre, faciliter, fluidifier un des points que j'ai mentionné dans la définition d'un projet écosocialiste, c'est l'idée que les besoins sociaux doivent être à la base du système et que ces besoins-là doivent être démocratiquement déterminés. Et cette question-là a toujours fait l'objet de polémiques de la part des néolibéraux. Friedrich Hayek, par exemple, a toujours considéré que collecter l'information nécessaire à la satisfaction des besoins dans un système planifié était une impossibilité matérielle, que ça ne pouvait se faire qu'au prix du développement d'une bureaucratie monstrueuse. Alors, ce n'est pas tout à fait faux, ce n'est pas la raison principale de la dégénérescence bureaucratique des tentatives de sortie du capitalisme en Union soviétique ou dans d'autres pays. La raison fondamentale était une raison sociale et politique, l'émergence d'une couche de bureaucratie privilégiée, mais quand même, l'argument ne peut pas être balayé du revers de la main. Et à cette objection, le développement des technologies de l'information et de la communication offre évidemment aujourd'hui une réponse. Il est possible de centraliser et de décentraliser les informations relatives aux besoins humains réels pour les satisfaire avant de produire et pas comme le fait le système capitaliste qui produit en spéculant sur le fait qu'il y aura une demande solvable au bout de la chaîne sur le marché. Et c'est tellement vrai que les grands groupes de la distribution aujourd'hui comme Walmart ou d'autres recours à ces technologies pour gérer leur stock, gérer la production, gérer les échanges au niveau mondial. Maintenant, on ne peut pas, bon, ceci étant dit, donc sur l'importance, l'apport que cette technologie pourrait avoir dans le fonctionnement d'une société, disons, autre, d'une civilisation éco-socialiste, ceci dit, il n'y a aucune illusion à se faire sur les GAFA et sur le rôle que eux peuvent jouer à cette aune-là. Quelque part, la démonstration qui a été donnée par Jeff Bezos d'Amazon est transparente, enfin, elle est lumineuse. Quand il a été confronté à la contestation de la politique, enfin, de la contribution d'Amazon à la destruction du climat, qu'il y a été confronté par ses propres employés cadres, pas par les ouvriers de la logistique, non, par des gens qui sont spécialistes de supply chain management ou de la gestion de la création de logiciels, etc., au siège de Seattle d'Amazon, ben, il a réagi très, très durement. Vis-à-vis de l'opinion publique, il a dit oui, Amazon va prendre ses responsabilités et il a commandé 100 000 camions électriques pour faire les livraisons de colis sur le marché américain, mais à l'interne, il a adopté des mesures extrêmement draconiennes contre ses propres employés, menaçant de licenciement quiconque oserait émettre une critique sur la politique climatique de son entreprise. Donc voilà, on voit bien que cette idée en particulier de l'achat de 100 000 camions électriques, on voit bien qu'on reste là dans une logique qui est une logique typiquement productiviste.
La prise de conscience, elle doit venir d'où ? Est-ce que ça doit venir des consommateurs qu'on se doute bien heureux de pouvoir regarder leurs vidéos en ultra haute définition depuis leur service préféré et bien au chaud dans leur canapé ? Ou plutôt des plateformes, justement, qui devraient elles-mêmes brider ce genre de fonctionnalité parce que trop consommatrice et puis entre une vidéo HD ou une vidéo 4K, bah, en fait, la différence n'est pas si incroyable. On gagne pas tant en qualité, donc en quelque sorte ça vaut pas le coup vis-à-vis du coût que ça a en termes de ressources premières et de serveurs, etc.
Pour répondre en termes généraux à la question, ben, la pression ne peut venir que d'en bas, elle ne peut venir que de la société elle-même, parce que les groupes eux-mêmes sont pris dans une logique concurrentielle qui est la logique productiviste du système capitaliste. Alors, on la connaissait pour le siècle et demi écoulé essentiellement dans la production matérielle de l'acier, du charbon, du verre, de tout ce que vous voulez, des voitures, des électroménagers. Aujourd'hui, on la connaît dans le domaine des productions numériques et cette même logique pousse à des investissements toujours croissant en capital, en technologie de plus en plus perfectionnée pour aller plus vite, pour avoir plus de qualité, etc. Et c'est cette logique-là qu'il faut quelque part casser. Alors, je ne sais pas au final ce que ça voudra dire sur la qualité des produits. Il n'y a pas de raison que l'humanité demain ne puisse pas profiter de séries télévisées ou de en vidéo de haute définition, de haute qualité. Mais la logique de la concurrence productiviste qui est derrière, elle doit être cassée. Et il y a des choses qu'il va falloir produire moins. Et qu'il va même falloir arrêter purement et simplement de produire. Et la pression en faveur de cette solution-là ne peut venir que de la base sociale, que de la masse de la population. Et la grande difficulté, évidemment, c'est que les gens aujourd'hui, ben, l'immense majorité de la population dépend de son salaire, donc de la production de son entreprise, quelque part, pour pouvoir assurer ses fins de mois, pour le dire simplement, pour pouvoir payer le loyer, pour pouvoir payer les traites, pour pouvoir payer la santé, l'éducation des enfants, etc. Et donc, il faut une solution globale au niveau de la société qui permet de produire moins tout en garantissant un emploi à tout le monde. Et ça nécessite un programme politique de transformation qui actionne principalement deux leviers, je pense. Le premier levier, c'est une réduction très radicale du temps de travail, puisqu'il faut produire moins, travaillons tous et travaillons radicalement moins. Et le deuxième levier, c'est un développement très important du secteur public, disons moins de privé, plus de public dans tous les domaines qui tiennent à la santé de la société et à la santé de des écosystèmes dans lesquels elle vit et dont elle dépend.
Alors j'entends ce que vous dites et le changement doit venir en effet du peuple, des citoyens, mais comment ne pas tomber dans une dictature verte qui empêcherait celui qui a envie de commander un livre sur Amazon et d'être livré quelques heures plus tard de le faire? Je pense notamment aux États-Unis où le port du masque a provoqué des manifestations de personnes se déclarant comme attachées à leur liberté de pas en porter. Si même l'argument de leur propre santé n'est pas suffisant, alors on se doute que celui de la planète, ça ne marche pas du tout et que pour, on va dire, arrêter ce mécanisme et qui ferait qu'on a envie de consommer d'une certaine manière, c'est assez compliqué, à moins de l'obliger. Mais là, on revient à ce que je disais, à une sorte de dictature verte.
Je pense qu'il y a effectivement, il ne faut pas avoir une vision angélique de l'affaire. Il va y avoir lutte et il va y avoir conflit pour savoir si on reste dans la logique de ce système productiviste, individualiste, dans lequel l'hyperconsommation et l'hyperinstantanéité de la commande de consommatoire sert quelque part de compensation, je pense, pour une extrême misère des relations humaines et des relations sociales, qui sont la véritable richesse de l'existence. Et ce conflit ne va pas ces conflits ne vont pas opposer simplement d'un côté les méchants capitalistes et de l'autre côté le gentil peuple. Il va y avoir il faut des ruptures à l'intérieur même de ce que vous avez appelé le peuple. Il faut une prise de conscience qui ne va pas aller sans bataille. Bataille non seulement d'idées, mais bataille aussi de forces sociales pour savoir si, par exemple, on porte le masque face à une pandémie ou si, au nom de la liberté individuelle, on continue à propager l'épidémie. Donc, mais effectivement, la question est très importante et très pertinente. Et personnellement, je crains un peu que une série de gens qui sont à juste titre conscients de l'extrême gravité de la pandémie que nous sommes en train de vivre, en tire comme et face au chaos de ce qui se passe aux États-Unis ou au Brésil, en tire la conclusion que finalement un régime à la chinoise, ça pourrait être mieux parce que c'est plus efficace. Or, c'est une dictature, une cyberdictature absolument effrayante, avec un flicage, un contrôle des individus par drone, par caméra à reconnaissance faciale. Avec à la clé une répression policière qui est extrêmement importante. Donc il faut éviter ça, il faut présenter une alternative par rapport à ça, et cette une troisième voie, pour ainsi dire. Et cette troisième voie ne peut être basée, à mon sens, que sur la prise de conscience des populations et l'organisation de mouvements sociaux qui soient des mouvements sociaux démocratiques et qui, par leur fonctionnement démocratique, par la richesse des échanges humains qu'ils permettent, de la richesse des échanges d'idées qu'ils permettent, commence à faire contrepoids par rapport à cet absurde individualisme de ces gens qui, aux États-Unis par exemple, refusent le port du masque au niveau de la liberté individuelle ou qui refusent de rouler en autre chose comme véhicule que des 4x4 extrêmement extrêmement polluants ou des Hummer, le véhicule le plus absurde de l'histoire de l'automobile. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre perspective que de concevoir la chose comme ça, pour échapper à ce duel ou à ce dilemme entre la dictature de l'individualisme capitaliste productiviste, pour ainsi dire, d'une part, et d'autre part, le spectre d'une dictature verte qui, effectivement, pourrait être tout à fait redoutable.
Si on se place toujours dans l'éco-socialisme et que je vous suis, est-ce qu'il faudrait stopper l'industrie du numérique numérique, ou du moins la partie loisirs. Je pense notamment à la vente de smartphones qu'on change tous les ans, tous les deux ans, parce que obsolescence programmée, des ordinateurs personnels qui servent principalement au divertissement, regarder des séries, aller sur les réseaux sociaux. Tout cela, on pourrait se dire qu'il y a d'autres manières de le faire, certainement beaucoup moins polluantes. Est-ce que ce genre de choses, on devrait le stopper, l'interdire dans l'écosocialisme ?
Je n'en sais rien. Je vais vous répondre franchement, je n'en sais rien. Ce que je pense, et de ça je suis intimement convaincu, c'est que l'hyperconsommation de tous ces produits est liée à une profonde frustration de notre nature d'individu, d'êtres sociaux, qui ont besoin de contacts sociaux, qui ont besoin de débats, de socialisation des décisions. Je pense que si on imagine un système dans lequel les citoyennes, les citoyens, les travailleuses, les travailleurs, enfin bref, les gens en général sont en charge de l'autogestion du territoire et des entreprises de ce territoire et des infrastructures et du logement, et que tout ça fait l'objet de décisions démocratiques, je pense qu'ils utiliseront les outils du numérique de façon radicalement différente. Que d'abord, ils les utiliseront moins pour de soi-disant loisirs, parce qu'ils seront absorbés par des choses plus, en fait, plus passionnantes, et des choses plus réelles, la construction de leur vie commune, et d'autre part, ils les utiliseront davantage au service de ce projet autogestionnaire. Donc voilà, j'ai l'impression que bon, ça c'est, me semble-t-il, une partie de la réponse. Peut-être qu'une autre partie de la réponse, mais là techniquement, j'avoue mon incompétence, c'est de faire des machines qui soient davantage possible de réparer, d'actualiser, sans les jeter à la poubelle. Enfin bon, l'ordinateur à partir duquel je vous parle là, je vais pas faire la publicité de sa marque, il est très beau, il est très performant, mais je ne vois pas comment on peut l'ouvrir. Je me souviens d'il y a 20 ans, quand on avait les premiers PC, ben c'est des machines qu'on pouvait ouvrir, on pouvait changer des pièces. Ici, j'ai un machin complètement compact, plat, soudé de partout. Je ne vois pas comment je pourrais réparer quoi que ce soit à cet engin. Même chose par rapport au smartphone. Donc, il me semble que là, il y a tout de même une deuxième piste de réflexion. Donc, je dirais, d'une part, les loisirs aujourd'hui sont des loisirs en partie aliénés par cet univers de la marchandise, de l'hyperconsommation individuelle qui sert de compensation misérable pour la misère des relations humaines. Et d'autre part, oui, explorons la piste du refurbishing, comme on dit en anglais, hein, de la réparation des matériels.
Merci, Daniel, de vous être prêté au jeu de cette interview. On retrouve votre ouvrage « Trop tard pour être pessimiste » aux éditions textuelles dans toutes les bonnes librairies. Pour vous autres auditeurs, retrouvez tous nos épisodes et nos articles sur siècledigital.fr. À très bientôt. Merci encore, Daniel.
Merci.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.